Bonjour à tous. Pour nous, ici au siège, il ne reste plus que 2 semaines avant le 250e anniversaire de la naissance des États-Unis en tant que nation. Pour ceux d'entre vous qui, sur le terrain, écouteront cet enregistrement une semaine plus tard, il ne restera plus qu'une semaine avant cet événement monumental de l'histoire de notre nation, les États-Unis. L'une des phrases les plus célèbres et les plus mémorables de la Déclaration d'indépendance, beaucoup d'entre vous ici la reconnaîtront immédiatement, tandis que certains à l'étranger ne la connaissent peut-être pas aussi bien, et nous tenons ces vérités pour évidentes. Il s'agit là d'une anecdote intéressante concernant le projet original de Thomas Jefferson. En effet, la phrase disait initialement: nous tenons ces vérités pour sacrées et indéniables. Cependant, il est largement rapporté que Benjamin Franklin aurait en réalité biffé les mots sacrés et indéniables pour les remplacer par évidentes. Or, les signataires considéraient ces vérités comme évidentes en soi. Ils estimaient qu'il était évident pour eux que tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. À leurs yeux, ces vérités n'avaient pas besoin d'être prouvées. Chacun avait, selon eux, droit à la vie. Chacun avait le droit de rechercher le bonheur. Chacun avait droit à certaines libertés. Ces principes allaient de soi pour les rédacteurs de l'un des plus grands textes de l'histoire. Par exemple, selon eux, cela allait également de soi, un tout, par exemple, est plus grand que n'importe laquelle de ses parties individuelles. Eh bien, cela va de soi. Aucune preuve n'est nécessaire pour cela. Un autre exemple est le suivant: si deux choses, nous en avons entendu parler récemment, sont égales à une troisième, alors les deux premières sont égales entre elles. Si A est égal à C et B est égal à C, alors A et B sont égaux entre eux. C'est une vérité évidente en soi. Il existe d'autres lois ou vérités universelles qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas aussi évidentes. Par exemple, la gravité, l'électricité et le vent. Personne ne doute de leur existence à ce stade de l'histoire de l'humanité en raison des effets qu'elles produisent. Si vous tenez un objet et que vous le lâchez, à moins d'être dans l'espace, il tombera. Si vous actionnez un interrupteur, vous pouvez vous attendre à ce que les lumières s'allument. Prenons le vent. On peut voir les feuilles s'agiter, ce qui en est la preuve. Cela montre clairement que le vent existe. Quant au vent plus violent, j'ai vécu en République dominicaine. Les vents d'ouragan peuvent faire s'effondrer des bâtiments. Ce sont là des phénomènes invisibles dont l'existence est mise en évidence par des preuves extérieures. Or, il existe une force invisible extraordinaire qui était à l'œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. Elle a façonné sa pensée. Elle a façonné la manière dont il étudiait la Bible, l'Ancien Testament en particulier, car c'est à partir de celui-ci qu'il enseignait. Elle a façonné sa vie de prière, son jeûne et sa méditation. J'ai récemment prêché un sermon sur la méditation. Nous avons entendu, dans ce petit sermon, parler des outils de la croissance chrétienne. Cette force invisible a influencé et façonné tous ces aspects de la vie de l'apôtre Paul, et elle agit de même sur nous. Cette force l'a fortifié à travers les épreuves pour qu'il serve Dieu et le peuple de Dieu sans relâche. S'agit-il de l'amour? Peut-être pensez-vous à la foi, à la patience, à ces choses puissantes dont notre pasteur général, M. Pack, nous a parlé tout récemment. Des choses qu'il nous a enseignées afin que nous puissions éviter de faire partie des nombreux qui échouent et de figurer parmi les rares qui réussissent. Paul a identifié cette force dans une déclaration remarquable, et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Ouvrons la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Quelle était cette force invisible? Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, dit ici l'apôtre Paul, je ne suis pas digne d'être appelé ainsi, c'est une déclaration d'une grande humilité. Cela pourrait avoir un lien avec le message un peu plus tard. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Non seulement elle, mais il a tué des chrétiens. Nous savons qu'il était présent lors de la mort d'Étienne. Voici ce qu'il dit au verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Ce n'est pas une simple phrase en l'air qu'il prononce ici. Et sa grâce, en parlant de Dieu, qui m'a été accordée, n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus abondamment que tous, en parlant des autres apôtres. Pourtant, ce n'est pas moi, une autre déclaration puissante, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Frères, tout comme la gravité, l'électricité ou le vent, nous ne pouvons pas voir la grâce directement, mais nous savons qu'elle existe grâce à la manière dont elle se manifeste ou aux effets qu'elle produit dans la vie d'une personne. Paul ne s'est pas contenté de dire aux Corinthiens que la grâce existait. Il s'est lui-même présenté comme la preuve de son existence. Sa preuve, c'était la transformation qu'il avait vécue, passant de Saul à Paul. Nous devons graver dans nos esprits 1 Corinthiens 15, 10. Réfléchissons à ses implications. Le monde réduit la grâce à de la simple miséricorde et au pardon. Tite 3 le dit effectivement. C'est ce qu'il affirme, et cela est certainement vrai. Si la grâce ne signifiait que le pardon, ces versets n'auraient aucun sens pour nous. Le pardon n'explique pas comment Saul est devenu Paul. Le pardon ne nous transforme pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous libère pour opérer un changement dans nos vies et pour vivre pour Dieu, comme le dit Paul ici. Et pour œuvrer abondamment. Tout cela est par la grâce. Les gens veulent croire que la grâce signifie que Dieu accepte chacun tel qu'il est. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il s'agit d'une force que Dieu utilise pour transformer les gens. Paul n'a pas seulement été pardonné par la grâce. Encore une fois, cela est affirmé dans Tite 3, de manière tout à fait claire. Il est passé du statut de monstre qui tuait les saints à celui d'un homme qui est mort au service des saints. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est une déclaration puissante. C'est une déclaration qui englobe tout. Il n'y ajoute aucune réserve. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une croyance du type « restez tel que vous êtes », comme le monde voudrait vous le faire croire. La grâce nous montre comment les chrétiens grandissent et changent. Nos vies sont régies par cette vérité qui nous a été accordée, à nous, le peuple de Dieu. Il est dit à un groupe de personnes douées au sein de l'église de Corinthe, « Ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi qui a animé mon travail, c'est-à-dire l'effort qu'il a déployé pour servir Dieu et pour servir les saints qu'il avait autrefois poursuivis ou persécutés. » Monsieur Pack a prêché un message sur la grâce en 2018, et à cette occasion, il a fourni un document. Je vous encourage à le rechercher dans la bibliothèque de sermons pour le consulter. Il est absolument exhaustif. Il y avait cependant une partie de la définition qui m'a vraiment conforté et inspiré, et qui m'a donné la détermination de prêcher ce message. Juste une partie de cette définition. Le mot dont nous allons parler est charis. Dans le dictionnaire de Strong, c'est le numéro G5485. Voici la définition. Vous voudrez peut-être la noter. L'influence divine sur le cœur, et son reflet dans la vie, ajoutez une autre virgule, y compris, et je ne vais pas terminer la phrase. Nous allons procéder ainsi tout au long du reste du message. Cela signifie que la grâce n'est pas simplement la faveur de Dieu. C'est l'influence qu'il exerce sur nos cœurs et qui doit se refléter dans nos vies. Si elle ne se reflète pas dans tous les domaines de notre vie, la grâce de Dieu peut être accordée à quelqu'un en vain. C'est ce qu'a dit Paul. Il allait s'assurer que la grâce qui lui avait été accordée ne serait pas vaine. Aucun d'entre nous ne souhaite cela. Je le sais. Ouvrez vos Bibles au chapitre 4 des Actes. Le chapitre 4 des Actes. Ce mot apparaît 156 fois dans le Nouveau Testament, 156 fois. Dans les Évangiles, il n'apparaît que 4 fois, en seulement 4 versets. 5 fois, si mes calculs sont exacts. Cela signifie que les 151 autres occurrences, après la naissance de l'Église et la Pentecôte, se trouvent en dehors des Évangiles. La plupart n'ont aucun rapport avec le pardon. Elles n'ont que très peu à voir avec le pardon. En fait, 17 livres du Nouveau Testament se terminent par une référence à la grâce. Les 13 épîtres de Paul se terminent toutes par une déclaration sur la grâce. L'épître aux Hébreux se termine par une déclaration sur la grâce. La première épître de Pierre se termine par une déclaration sur la grâce. La deuxième épître de Jean se termine par une déclaration sur la grâce. Si vous comptez, il y en a une de plus, mais je ne vais pas vous la révéler non plus. L'une dit, selon la grâce de Dieu. Une autre se termine par, le Dieu de toute grâce. Une autre dit, la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous vous tenez. Il y a quelque chose d'important à savoir au sujet de la grâce. Pour que Paul termine chacune de ses épîtres en parlant de la grâce et de sa relation avec nous. Actes, chapitre 4. Vous devriez déjà être à cette page. Nous allons nous rendre à la première occurrence de ce passage après la Pentecôte. Verset 33. Et c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, c'est énorme. Beaucoup d'entre nous le savent. Une grâce immense. Pas n'importe quelle grâce. Une grâce immense reposée sur eux tous. Il ne fait pas uniquement référence aux apôtres. Si vous relisez le verset 1, il fait référence à tous ceux qui croient au message de l'Évangile et qui ont rejoint l'Église. Une grâce immense reposait sur eux tous. Il s'agit là encore de la première mention de la grâce après la naissance de l'Église et la Pentecôte. Remarquez que Luc ne définit pas la grâce. Au lieu de cela, il a rapporté à Théophile ce qu'elle a produit chez le peuple de Dieu. La grâce était invisible, mais ses effets étaient clairement visibles. D'ailleurs, si vous jetez un œil au verset 36, Barnabas y est présenté. Vous trouverez cela intéressant lorsque nous passerons au chapitre 11 des Actes, où le mot « grâce » est utilisé pour la deuxième fois en référence à l'Église. Actes, chapitre 11. Verset 19. Or, ceux qui avaient été dispersés à la suite de la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ce sont les responsables. Nous allons le voir très bientôt, car ils prêchaient la parole. Ils ont donc été dispersés. Après avoir assisté à la mort d'Étienne, cela les a poussés à se disperser dans toute l'Europe. Cela faisait manifestement partie du plan de Dieu, et il est dit, se rendirent jusqu'à Venise, à Chypre et à Antioche, prêchant la parole. Verset 21. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Verset 22. Lorsque la nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, elle envoya Barnabas à Antioche. Barnabas était déjà apparu au chapitre 4. Verset 23. Qui, lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, se réjouit. Réfléchissez bien à ce que Luc rapporte. Lorsque Barnabas, présenté à nouveau dans le chapitre 4 des Actes, est arrivé à Antioche, il savait ce qu'il voyait. Il l'avait déjà vu auparavant. Il l'avait vu auparavant dans l'église primitive. Savez-vous ce qu'il a vu? Il est dit qu'il a vu la grâce. J'ai dit que la grâce est invisible. J'ai dit que la grâce est l'influence de Dieu sur les cœurs, telle qu'elle se reflète dans la vie d'une personne ou dans celle de plusieurs personnes. Il n'avait pas besoin d'énumérer une multitude de détails. Je suis convaincu que ce qu'il a vu, ce sont des vies transformées et des personnes œuvrant, travaillant abondamment pour Dieu et les unes pour les autres. Je pense que nous en avons entendu parler dans la petite prédication sur le travail. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ce qui nous pousse à travailler? Qu'est-ce que la grâce a produit chez l'observateur? Nous venons de le lire. Quiconque voit la grâce, ses manifestations, cela a réjoui Barnabas. Cela signifie qu'il était plein de joie. Verset 25. Qu'a-t-il fait? Continuons à lire. Si je pouvais le résumer en un mot, il est parti. Quoi? Il s'est enfui loin de la grâce? Non. Il se rendit à Tars, dit-on, à la recherche de Saul. Verset 26. C'est intéressant, ils utilisent ici le nom de Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Il dit, « Il faut que tu viennes voir ça. Il faut que tu vois ce qui se passe, et Antioche en particulier. » Et il arriva que, pendant une année entière, ils se réunirent avec l'Église. Paul fut tellement marqué qu'il resta un an et continua à enseigner. Qui ne voudrait pas fréquenter un groupe de personnes comme ça? Et il enseigna à beaucoup de gens, et c'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Barnabas fut tellement ému par la grâce dont faisait preuve l'église d'Antioche qu'il partit à la recherche de l'apôtre qui avait passé une année à enseigner. Je trouve intéressant que Dieu ait veillé à ce qu'il soit consigné que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche, précisément là où la grâce s'était manifestée. Frères et sœurs, la faveur de Dieu, son influence sur nos cœurs et nos vies, sont-elles visibles aux yeux des autres? En donnant-nous des preuves tangibles et parvenons-nous à réjouir même les personnes extérieures à notre communauté, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, des inconnus, grâce à la grâce de Dieu dans notre vie et à l'influence de Dieu sur nos cœurs? Car c'est là, encore une fois, ce qu'est la grâce. C'est l'influence de Dieu sur nos cœurs, qui doit se refléter dans nos vies. Ceux qui se disent chrétiens à travers le monde pourraient dire, « J'ai la grâce de Dieu ». Savez-vous ce que l'apôtre Jacques leur demanderait? Montrez-moi la preuve. Il pourrait répondre, « Que voulez-vous dire par preuve? Je suis pardonné. » Non. Prouvez-le-moi. Montrez-le-moi. Que voulez-vous dire? Comment puis-je vous le montrer? Nous savons déjà qu'ils ne savent pas ce qu'est la grâce. Ils en ont une vision incomplète. Frères, nous avons le droit de poser cette question. Quelle est la preuve de la grâce? Car je veux être certain de pouvoir dire ce que Paul a dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà la réponse. Il aurait pu choisir l'amour, la foi, la joie. Nous y reviendrons. Il a choisi le mot grâce. Mais par la grâce, par l'influence de Dieu dans mon cœur, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, nous allons examiner ces preuves. Le premier endroit où chercher, c'est dans cette définition. Finissons-la maintenant, car elle renvoie à la première preuve de la grâce. Encore une fois, cela provient du document que M. Pack nous a fourni. Rappelez-vous, vous aviez probablement déjà noté l'influence divine sur mon cœur et son reflet dans ma vie. Vous voudrez peut-être barrer chez une personne ou ce que vous avez écrit à la place, et ajouter « ma », y compris, Et c'est ainsi que se termine la définition, la gratitude. L'influence divine sur mon cœur et son reflet dans ma vie, y compris la gratitude. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous allons faire de nombreuses allers-retours dans les épîtres aux Corinthiens, car c'était un groupe de personnes douées. Paul avait besoin de leur enseigner certains principes de base puissants, des fondamentaux. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts. Paul décrit ici sa propre situation et celle des autres qui l'accompagnaient, et, bien sûr, cela s'applique aux Corinthiens. Mais non angoissés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Réfléchissez au contraste qu'il met ici en évidence. Abattus, mais pas anéantis. Ce sont là des paroles inspirantes qui devraient trouver un écho puissant dans nos vies. Nous pouvons tous réfléchir à ce qui se passe dans nos vies. Le bon, comme je le dis souvent, je suis fan de Clint Eastwood, le mauvais est aussi le laid. Monsieur Pack a récemment parlé de l'adversité et de la prospérité, de l'adversité et de la prospérité. Dans ce contexte, l'apôtre Paul dit au verset 15, « Car tout cela est pour votre bien, afin que la grâce abondante, par l'action de grâce de beaucoup, rejaillisse à la gloire de Dieu. » Les traducteurs anglais rendent cette phrase de manière un peu saccadée, mais plusieurs traductions, les unes après les autres, la New International Version, la New Living Translation, la Beran Standard Bible, l'English Standard Bible disent en substance, à mesure que la grâce abonde, l'action de grâce abondera aussi pour la gloire de Dieu. Traduction après traduction, on voit ce que Paul voulait que les Corinthiens comprennent. La gratitude est un signe de la grâce de Dieu. C'est un signe que Dieu agit dans le cœur d'une personne. Une grâce abondante engendre une gratitude abondante. À mesure que la grâce s'accroît, la gratitude s'accroît aussi. À mesure que la gratitude s'accroît de manière, Dieu est de plus en plus glorifié. Les gens dans le monde ne font peut-être pas le lien entre ces trois éléments. Ils ne relient pas la grâce à la gratitude et à la glorification de Dieu. Nous vivons dans l'une des générations les plus ingrates de tous les temps, voire sans doute la plus ingrate de tous les temps. J'entends souvent dire, mais ce n'est pas le cas à l'Église. J'entends souvent des merci à l'Église. Je les entends assez fréquemment. C'est bien. En fait, c'est formidable. Dieu attend plus qu'un simple merci de temps en temps. Je peux apprendre à mes enfants à dire merci, s'il te plaît et merci, mais puis-je les aider à développer une attitude de gratitude? Car c'est ce que Dieu veut que nous développions. Cela ne peut s'accomplir que par la grâce. Une attitude de gratitude ne peut s'acquérir que par la grâce. Encore une fois, on peut apprendre à n'importe qui à dire « merci », mais vivre sa vie, quand on se réveille le matin et qu'on se couche le soir, avec une attitude de gratitude, pensez à la façon dont cela façonne tous les outils chrétiens que nous utilisons. La manière dont nous prions, dont nous méditons, dont nous jeûnons, ou pourquoi nous jeûnons. Les chrétiens qui sont de plus en plus influencés par la grâce de Dieu deviennent de plus en plus reconnaissants en toutes circonstances. Regardez le contexte que nous venons de lire, tous ces contrastes. Savez-vous pourquoi ils n'étaient ni perplexes ni désespérés? Pourquoi ils n'ont pas été anéantis? Grâce à la grâce. La gratitude est l'un des signes évidents que la grâce est à l'œuvre dans nos vies. Voici un test décisif, suis-je une personne reconnaissante uniquement lorsque tout va bien, ou suis-je véritablement reconnaissant même lors des journées ordinaires et difficiles? Je dois me poser cette question à moi-même. Je ne peux pas poser cette question à votre place. Lorsque nous nous surprenons à nous plaindre, à nous décourager, à ruminer nos déceptions, nous ne pouvons nous empêcher de repenser à ce que nous avons entendu récemment. Lorsque nous commettons des erreurs, nous voulons tirer les leçons de ces expériences, mais la grâce nous fait aller de l'avant. Elle nous permet de dépasser cela. Nous les oublions. La grâce nous permet d'oublier les erreurs que nous avons commises, pas les leçons que nous en avons tirées. Si nous négligeons les bénédictions dans nos vies et que nous ne prenons pas le temps de dire merci, même à Dieu, c'est peut-être que nous manquons un peu de cette attitude de gratitude. C'est par la grâce que vous la développez. Vous devez alors vous demander, est-ce que la grâce me fait défaut dans ma vie? La grâce se manifeste par l'action de grâce, mes frères, mais la gratitude n'est qu'une preuve parmi d'autres de la grâce. Il y en a beaucoup. Nous allons en examiner d'autres, mais avant de poursuivre, réfléchissons à celui qui a laissé la plus grande trace prouvant l'existence de la grâce. Tournons-nous vers le chapitre 1 de l'Évangile selon Jean. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Nous lisons assez souvent ce chapitre, en particulier les premiers versets. Tous ceux d'entre nous qui fréquentons l'Église de Dieu depuis un certain temps, et même les gens du monde, connaissent ce verset, le verset 1, au commencement était la parole, et elle était avec Dieu, et elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean commence par expliquer qui était le Christ avant de s'incarner, mais alors, l'avez-vous vraiment remarqué, vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé, vous êtes-vous déjà, pour ma part, je dois l'admettre, je ne l'ai jamais fait. On passe directement au verset 14. Parfois, on n'arrive même pas à lire jusqu'à ce verset. Verset 14. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Si nous voulons savoir à quoi ressemble la grâce sous une forme humaine, nous pouvons nous tourner vers la vie de Jésus-Christ. Il incarnait parfaitement la grâce. La grâce s'est manifestée de manière parfaite à travers sa vie. Luc, chapitre 2, je vous ai dit qu'il y avait quelques exemples dans les évangiles. Nous allons nous rendre au chapitre 2 de Luc. Jean aurait pu choisir n'importe quelle autre description, mais il a choisi la grâce et la vérité. Nous y reviendrons dans un instant. Luc, chapitre 2, verset 40, en parlant du jeune Jésus, nous connaissons le récit qui y mène. Verset 40, et l'enfant grandissait, là encore, en parlant de Jésus, et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse. Un jeune adolescent tout juste. Et la grâce de Dieu reposait sur lui, ajoute-t-il. Or, Luc ajoute une déclaration remarquable après nous avoir dit qu'enfant, Jésus grandissait, se fortifiait en esprit et était rempli de sagesse. S'il s'était arrêté là, nous aurions été impressionnés. Combien d'adolescents de 13 ans connaissez-vous aujourd'hui qui s'affermissent en esprit, qui sont remplis de sagesse, qui grandissent et mûrissent? C'est rare de nos jours. On serait déjà impressionné rien que par cela. Il ajoute, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Repensez à l'Église du chapitre 4 des Actes. Une grâce immense, une grande grâce reposait sur eux. La vie du Christ est devenue la démonstration parfaite de ce à quoi ressemble la grâce lorsqu'elle se reflète pleinement en un être humain. Sa vie est le plus grand exemple. L'avez-vous déjà remarqué? Revenons à Jean chapitre 1. Au verset 17, à quelques versets seulement de l'endroit où nous venons de lire. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je sais que des églises dans le monde, des églises chrétiennes, ont du mal avec cela. En fait, elles se trompent complètement. Je veux que vous remarquiez ici qu'il n'y a pas de « mais ». C'est écrit en italique. Ce sont les traducteurs qui ont inséré ce mot « mais ». Beaucoup prétendent que la grâce a remplacé la loi. Le verset 17 commence par une conjonction « car », qui signifie « parce que ». Le verset 17 complète en réalité la pensée de Jean exprimée au verset 16, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Puis il poursuit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ceux qui prétendent que la grâce a remplacé la loi ont tout simplement tort. Ce même Jésus-Christ qui a apporté la grâce et la vérité, comme le décrit Jean, l'a déclaré dans Matthieu chapitre 5, l'un de mes chapitres préférés. Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Frères, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, retenez celle-ci, la grâce a rempli une fonction dans la vie du Christ. Elle n'avait pas pour but de rejeter la loi. Elle l'a aidé à l'accomplir et à la magnifier. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Continuons notre lecture. Car, en vérité, je vous le dis, verset 18, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un, cela concerne le passé, le présent et l'avenir. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements, et enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera, en référence à la loi et aux commandements, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je ne me lasse jamais de le répéter. La dernière fois que j'ai vérifié, ce matin et juste avant d'entrer ici, le ciel et la terre étaient toujours là. Ils n'ont pas disparu. Pas un seul lien, un seul trait de ligne ne peut disparaître. Cela a des implications stupéfiantes. Rien que ce verset à lui seul. Rappelez-vous, le Christ était plein de grâce et de vérité. La grâce et l'accomplissement de la loi doivent tous deux être vrais. La grâce de Dieu et sa loi sont toutes deux en vigueur. Ensemble, mes frères, la grâce et la loi de Dieu révèlent l'image complète d'un chrétien converti qui, soit dit en passant, sera appelé grand dans le royaume. J'ai dit que les implications étaient considérables. Verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. En d'autres termes, certains n'y parviendront pas. Comme nous l'avons entendu, beaucoup s'efforceront d'y parvenir, mais n'y parviendront pas. Rares sont ceux qui s'efforceront et y parviendront. Voyez les choses ainsi, la loi définit la norme de justice de Dieu. La grâce nous aide à la respecter d'une manière différente de celle des scribes et des pharisiens. Comment cela? Eh bien, à partir du verset 21, je l'ai déjà dit, c'est l'un de mes chapitres préférés. Voyons comment la loi et la grâce agissent ensemble pour nous aider à entrer dans le royaume et à être appelés grands. La loi dit, tu ne tueras point. La grâce nous enseigne à la respecter et à la magnifier en ne nous mettant pas en colère contre nos frères sans raison. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. La grâce nous enseigne à la respecter et à la magnifier en ne convoitant pas dans notre cœur. Je pourrais continuer encore et encore. Romains, chapitre 5. Maintenant que vous avez compris cela, Jean 1 et Matthieu 5. Passons à Romains 5, un autre verset souvent mal compris. Ce que je viens d'expliquer jette les bases pour comprendre plus parfaitement Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Or, La loi est intervenue afin que la transgression abondât. En d'autres termes, Dieu nous a donné la loi afin que nous puissions reconnaître ce qu'est le péché. Une fois que Dieu nous a donné la loi, nous avons pu voir le péché partout. Ce n'est pas la loi qui a fait abonder le péché. Elle l'a simplement rendu manifeste. Là où le péché a abondé, là où le péché était manifeste, la grâce a abondé bien davantage, afin que, de même que le péché a régné jusqu'à la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ. Ce sont les hommes qui établissent les divisions en chapitres. Si vous vous reportez au verset 1 du chapitre 6 de l'Épître aux Romains, dont une partie figure sur la même page pour ceux qui ont la même Bible que moi, vous lirez, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. En d'autres termes, vous passez à côté de la raison d'être de la grâce. Romains, Corinthiens, Philippiens, Colossiens. La grâce, qui, soit dit en passant, trouve son origine dans l'Ancien Testament, nous a été donnée pour nous enseigner comment vaincre le péché, qui est la transgression de la loi. La loi nous dit ce qu'est le péché. La grâce nous aide à ne pas commettre de péché, à ne pas enfreindre la loi de Dieu. Moïse a donné la loi. Le Christ est venu avec la grâce et la vérité afin que nous puissions accomplir la loi, être appelés grands dans le royaume et entrer. Certains d'entre vous pensent peut-être, d'autres non, Monsieur Hock n'a cessé de répéter que la grâce enseigne. Est-il sûr que la grâce enseigne? La grâce de Dieu, enseigne-t-elle réellement? Si l'on revient simplement à la définition, à savoir l'influence de Dieu sur le cœur, nous connaissons la réponse. Si elle enseigne, qu'enseigne-t-elle? Elle va plus loin que la loi. Nous le savons. Tite, chapitre 2. Passons à Tite. Nous n'irons pas au chapitre 3, mais nous irons au chapitre 2. Verset 11. La grâce enseigne-t-elle? Et si oui, qu'enseigne-t-elle? Verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut, ce n'est qu'une précision. La grâce apporte le salut. Il le dira au chapitre 3. Car la grâce de Dieu, vous n'avez pas besoin de lire ça, qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Il est dit, car la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes, passez rapidement cette partie. Verset 12. Nous enseignant, la grâce enseigne, mes frères. Qu'enseigne-t-elle? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, afin de vivre sobrement. Cela signifie avec maîtrise de soi, modération, justice et piété dans ce monde présent. Une autre preuve de la grâce, dit Paul à Tite, c'est que la grâce enseigne quelqu'un. Si elle enseigne quelqu'un, ceux qui la possèdent véritablement, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est aussi simple que cela, et aux convoitises du monde, et à vivre sobrement, dans la justice et la piété, maintenant, pas dans le royaume, car lorsque nous arriverons au royaume, il sera trop tard, frères. Beaucoup de gens entendent parler de la grâce dans le monde depuis les chairs, et voient un esprit de permissivité, de tolérance et d'indulgence envers le péché. Nulle part la Bible n'enseigne que Dieu permette, tolère ou fasse preuve d'indulgence envers ceux qui enfreignent ses lois. Nulle part. Vous ne trouverez rien de tel. En réalité, toute la Bible réfute toute idée selon laquelle nous pourrions venir tels que nous sommes, et encore moins rester tels que nous sommes. La Bible réfute cela. Je dois changer, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce, telle que l'explique la Bible, nous enseigne à développer le caractère de Dieu, si je peux résumer cela ainsi. Partout où il y a un caractère pieux, la grâce se manifeste. tout comme la gratitude. Permettez-moi maintenant d'aborder un point bref mais important concernant le Saint-Esprit. Nous l'appelons souvent l'Esprit de vérité. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, mais Hébreux 10, 29. Vous voudrez peut-être noter ce verset, l'appel Esprit de grâce. L'Esprit de grâce de Dieu n'abaissera pas les normes. Nous pouvons pécher, mais nous n'utiliserons jamais la grâce pour justifier notre péché, ni pour le répéter sans fin. Si la grâce est présente dans votre vie, si elle agit, si Dieu influence votre cœur par l'intermédiaire de l'Esprit de grâce, devinez ce que vous allez voir. Un caractère pieux. Si l'Esprit de grâce agit dans votre vie, alors vous verrez l'amour. L'Esprit de grâce apporte la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est l'Esprit de grâce qui fait cela. Nous savons ce que l'amour, ainsi que les implications de l'amour, de l'espérance et de la joie, représentent pour tout chrétien. C'est l'Esprit de grâce qui nous donne tout cela. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si j'aime d'un amour agapé, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai la foi, la maîtrise de soi et la joie, et si je suis capable de patience, c'est parce que j'ai l'Esprit de grâce, la grâce dans ma vie. Paul met en avant une autre manifestation de l'influence de Dieu, le caractère pieux. Paul montre une autre manière dont l'influence de Dieu sur nos cœurs devrait se refléter dans nos vies. 2 Corinthiens 8. J'ai dit que nous retournions aux Corinthiens, ceux dont on pourrait dire qu'ils donnaient souvent l'impression de tout savoir. Il leur manquait quelque chose. 2 Corinthiens 8. Nous avons donc la gratitude et nous avons un caractère pieux. Verset 1. De plus, frères, nous vous faisons savoir, c'est une excellente formule. Savez-vous ce que cela signifie? Nous voulons que vous connaissiez la grâce de Dieu. Nous voulons que vous connaissiez la grâce de Dieu accordée, dispensée par notre Créateur aux églises de Macédoine, comment, au milieu d'une grande épreuve et d'une grande affliction, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débordé en richesse de leur libéralité. Une générosité abondante envers l'œuvre de Dieu est une preuve puissante de la grâce dans nos vies. Inutile de s'étendre sur ce point. Nous expliquons en substance ce que la grâce produit à chaque collecte que nous faisons 7 fois par an. C'est une invitation à faire preuve d'une générosité abondante. Je le répète, une générosité abondante est l'un des signes évidents que la grâce de Dieu touche le cœur d'une personne. La grâce nous enseigne, comme je l'ai évoqué au point précédent, que la générosité ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes prêts à donner. C'est ainsi que l'on mesure la grâce. Pas à ce que l'on a. Le monde dirait que vous avez la grâce dans votre vie parce que vous possédez de grandes richesses. La vraie grâce nous enseigne. Non, c'est ma volonté de donner à l'œuvre de Dieu. Dans quelle mesure suis-je disposé à le faire? Les Macédoniens illustrent ce que l'influence de Dieu peut accomplir malgré l'affliction ou la grande pauvreté. Encore une fois, le contraste que nous observons dans la vie. Ils n'ont pas attendu que la prospérité entre dans leur vie pour donner. Ils avaient depuis longtemps le désir de donner dans l'adversité, en période d'épreuve. Voilà ce que la grâce peut accomplir. Verset 3. Je rends témoignage de leur capacité. Oui, et au-delà de leur capacité, ils étaient disposés, nous suppliant avec beaucoup d'insistance, implorant, c'est ce que cela signifie, implorant que nous acceptions ce don et que nous prenions sur nous la participation au service des saints, à l'œuvre. Et c'est ce qu'ils ont fait, non pas comme nous l'espérions, mais en s'offrant d'abord eux-mêmes au Seigneur. Nous entrons maintenant dans les profondeurs de l'essence même du vrai christianisme. Nous y plongeons à présent. Tout le monde veut rester à la surface du christianisme. Ici, cela va en profondeur, et vers nous par la volonté de Dieu. Les Macédoniens ne se sont pas contentés de donner. Ils aspiraient à donner. Repensons à ce que nous avons entendu récemment sur la manière d'éviter de faire partie des nombreux qui n'y parviennent pas et d'être parmi les rares qui y parviennent. Ils sont prêts, de leur propre initiative, à supplier Paul d'accepter leur don. Ils considèrent le soutien à l'Église comme un privilège, et non comme une obligation. Je vais même faire une petite digression. Comment considérez-vous la dîme ? La versez-vous avec une attitude de gratitude, avec un caractère pieux, dans un esprit de générosité ? La dîme, c'est la dîme. C'est la loi. Quant à la deuxième dîme, je vous ordonne d'être présent à mon festin. Conservez votre deuxième dîme. Tous les 3 ans, aidez les veuves et les orphelins. Consacrez votre troisième dîme, mais les offrandes communes, les considérons-nous comme des obligations ou comme des privilèges? La loi nous dit que nous devons donner. Même la doctrine de l'Église dit que nous devons donner. La grâce nous donne envie de donner. Pourquoi tant de générosité? Le verset 5 donne la réponse. C'est la grâce qui les a d'abord poussés à donner leur vie. L'argent a simplement suivi. C'est pourquoi Paul a dit « J'ai travaillé plus abondamment ». Il y a consacré toute sa vie. L'argent n'était qu'une conséquence. Car là où va votre vie, votre argent suivra. J'aime bien l'expression « joindre le geste à la parole ». Vous dites que vous avez la grâce, je dis que j'ai la grâce. Eh bien, laissez-moi moi aussi joindre le geste à la parole. Pour continuer, dans la mesure où nous désirions les dîmes, il avait commencé, verset 6, ainsi, il vous complétait aussi cette même grâce. Quoi ? Oh, je ne veux pas seulement que vous en entendiez parler, je veux que vous l'imitez. Ce n'est pas pour vous donner des nouvelles. J'ai dit cela à Tite afin qu'il achève aussi en vous cette même grâce. Par conséquent, puisque vous abondez en tout, voilà, les Corinthiens, qui abondent en foi, je vois beaucoup de frères dotés d'une grande foi. Vous abondez en parole, en connaissance, en diligence et en amour à notre égard. Veillez à abonder aussi dans cette grâce. En d'autres termes, je pourrais m'arrêter là, la foi, l'éloquence, la connaissance, la diligence et l'amour envers l'œuvre, envers l'apôtre, envers le ministère, le gouvernement de Dieu, tout cela est une grâce. Car il dit, veillez à abonder aussi dans cette grâce. En d'autres termes, vous abondez dans la grâce de la foi, vous abondez dans la grâce de l'éloquence, de la connaissance, de la diligence et de l'amour à notre égard, mais je veux que vous abondiez aussi dans cette grâce-là, la générosité. Paul ne se contente pas de dire aux Corinthiens d'admirer et d'apprécier les frères généreux. Il leur dit d'abonder dans la même grâce. Ils abondaient déjà dans toutes ces choses. Frères, Dieu ne présente pas la richesse comme une preuve de sa grâce. Il permet à certains d'entre nous, dans son Église, de posséder des richesses afin de prouver ensuite qu'ils ont été formés par la grâce en donnant généreusement. Encore une fois, veillez à abonder aussi dans cette grâce. Dieu agit sur le cœur de telle manière qu'il nous fait passer, ou fait passer cette personne, de la question « que puis-je garder ?» à celle de « que puis-je donner ?» C'est cela, l'œuvre de la grâce. La grâce transforme une personne qui se demandait « que puis-je garder ?» « que puis-je gagner ?» Comment puis-je accroître ma richesse ? En quelqu'un qui se demande, que puis-je donner aux autres ? Une fois encore, Jésus-Christ a incarné la grâce, même dans ce domaine. Quoi? Continuons, verset 9, nous ne quittons pas le chapitre. Verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Qui, bien qu'il fût riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous deveniez riche et que vous ayez l'occasion de manifester la même grâce que lui. Oui, il est impressionnant que les Macédoniens aient donné de leur pauvreté, mais Jésus-Christ a tout abandonné. Nous pensons souvent à Jésus-Christ qui a donné sa vie, et à juste titre, sinon je n'en aurais pas moi-même, mais il a également renoncé à ses richesses. C'est le plus grand exemple de grâce manifesté par la générosité. Voici un point essentiel concernant la générosité. Elle ne naît pas d'un commandement. La générosité ne naît pas d'un commandement. La dîme, c'est l'obéissance. La générosité va au-delà. Elle est une mesure de l'influence de Dieu dans le cœur d'une personne. Une générosité débordante envers les œuvres de Dieu est un signe extérieur que nous débordons de la grâce de Dieu. Déborder de générosité est une autre preuve, tout comme la gratitude et le caractère, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Allons directement au chapitre 9 de la deuxième épître aux Corinthiens. Pardon, nous y étions déjà. Verset 8. Et Dieu est capable de faire abonder toute sa grâce envers vous, afin que, ayant toujours tout ce qui est nécessaire en toutes choses, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Quoi? Dieu nous donne de quoi manger, des vêtements et un toit au-dessus de nos têtes. Nous avons entendu cela récemment aussi. Pourquoi? Pour que nous puissions abonder en bonnes œuvres. C'est pour cela que j'ai de la nourriture dans le ventre. C'est pour cela que Dieu pourvoit à cela. C'est pour cela que j'ai des vêtements sur le dos. C'est pour cela que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Pour abonder en bonnes œuvres par la grâce. Frères, notez bien cela, car cela nous amène au point suivant. La grâce reçue doit devenir une grâce transmise. La grâce reçue doit être une grâce transmise. Elle doit le devenir, sinon nous courons le risque, comme l'a dit Paul, que la grâce soit vaine. Nous pouvons recevoir la grâce en vain si nous n'abondons pas en bonnes œuvres. Pas seulement quelques bonnes œuvres, pas un petit nombre de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne viennent pas naturellement. La nature humaine demande, comment les autres peuvent-ils m'aider? La grâce demande, comment puis-je aider les autres? Comment puis-je aider? La grâce anime une personne lorsqu'elle est influencée, lorsque Dieu influence notre, elle cherche des occasions de servir. Nous le disons sans cesse, à chaque petite occasion. Au sein de l'Église, avant les offices du sabbat, pendant les offices du sabbat, après les offices du sabbat, nous tous, membres du ministère et laïcs, à la maison, au travail, nous recherchons des occasions d'accomplir de bonnes œuvres pour les autres. Éphésiens, chapitre 4. Je pourrais consacrer tout un sermon à parler de l'abondance de la grâce des bonnes œuvres. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, que Dieu dit qu'il vous fournira. Si vous avez de quoi manger, que Dieu dit qu'il vous fournira. Si vous avez des vêtements sur le dos, que Dieu dit qu'il vous fournira. Si vous recherchez le royaume de Dieu, selon la condition, cherchez d'abord le royaume de Dieu, il pourvoira à toutes ces choses. Il vous prépare à accomplir de bonnes œuvres. Éphésiens, chapitre 4, verset 7, dit que cela s'applique également à notre façon de parler. La preuve de la grâce se voit, ou dans ce cas-ci, s'entend à la manière dont nous nous parlons les uns aux autres, dont nous nous adressons aux autres. Éphésiens 4, verset 7, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, oui, c'est un commandement, Mais ce qui est bon est utile pour édifier, afin que cela porte, quoi? La grâce, oh, à ceux qui l'entendent. Pas pour apporter l'amour, ni la foi, ni la patience. Il est dit, apporter la grâce. Oh, voilà qui devient encore plus intéressant. Réfléchissez bien à ce que nous venons de lire. Paul dit que nos paroles apportent la grâce. En un sens, nous sommes tous des ministres de la grâce. La grâce de Dieu influencera nos cœurs afin que nous influencions les autres par des paroles édifiantes, encourageantes, fortifiantes, réconfortantes ou inspirantes. Et voici ce qui est formidable avec la grâce, elle n'évite ni la franchise ni les vérités difficiles. Elle nous aide à apporter ce qui est nécessaire, et non ce que l'on souhaite, et elle le fait comme il se doit. Je peux être direct avec ma femme, mes enfants ou mes collègues, mais cela doit avoir pour but d'édifier. Je peux corriger, je peux discipliner, je peux regarder quelqu'un droit dans les yeux et m'exprimer avec fermeté, mais si cela se fait sans grâce, cela peut détruire plutôt qu'édifier. La grâce nous donne la force d'être direct de la manière qui convient. Elle nous aide à aborder les problèmes et à régler nos différends sans nous rabaisser les uns les autres ni détruire nos relations. La manière dont nous nous traitons les uns les autres est l'un des meilleurs indicateurs de la présence ou non de la grâce dans nos vies. La manière dont nous nous accordons mutuellement la grâce a son importance. Le Christ était plein de grâce et de vérité. Et puis Paul cite un excellent exemple où la grâce reçue se transforme en grâce accordée. Pas seulement par des paroles, pas seulement par des actes, mais de manière continue. Verset 31. Que toute amertume, toute colère, toute fureur, toute clameur et toute calomnie soient ôtées de chez vous, ainsi que toute malice. Et soyez bienveillants les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné pour l'amour du Christ. Ah, monsieur Hook, vous vous êtes égaré. Je ne vois la grâce nulle part là-dedans. Vous savez quoi? Si je ne me trompe pas, pardonner et être pardonné se traduisent tous deux par le mot charizomé. Je ne vais pas le répéter parce que je l'ai mal prononcé la première fois, mais vous ne le savez pas. C'est moi qui ai les yeux rivés sur mes notes. Je l'ai donc mal prononcé, et je viens de l'admettre. Devinez ce qu'il y a là-dedans. Charis. Ce mot, pardonner et pardon, est dérivé de grâce. Donc, se faire grâce les uns aux autres, tout comme Dieu, à cause du Christ, nous a fait grâce. Dieu nous accorde sa grâce. Et à travers nos paroles, nos actes et le pardon que nous nous accordons mutuellement, tout comme Dieu nous pardonne, nous prions sans cesse pour cela. Savez-vous ce que nous prions? Nous prions pour la grâce. Père, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Accorde-moi la grâce, et voici le but, afin que je puisse accorder la grâce. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si l'on n'a pas la grâce, on ne peut pas l'accorder. Nous avons le pardon, une forme de grâce, donc nous devons l'accorder. Ce qui nous amène à un point très important, car je pourrais parler du pardon pendant des heures. Tournons-nous vers 1 Pierre 4. Une personne dont le cœur est influencé par la grâce de Dieu trouve extrêmement difficile, voire impossible, de refuser le pardon. Un autre test décisif. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, examinez votre grâce. Si j'ai du mal à pardonner à quelqu'un, je dois examiner ma grâce. Si je n'ai pas envie de faire une bonne action pour quelqu'un, et que je pense en réalité à la manière de lui faire du mal ou de lui causer du tort, je dois examiner ma grâce. Et si ce que je m'apprête à dire va détruire cette personne, je dois examiner ma grâce. Qu'est-ce que cela fait de nous? Une Pierre 4, vous devriez être là, verset 29. Mais la fin de toute chose est proche, l'apôtre Pierre, le chef des apôtres de l'Église primitive, pensait que la fin était proche. Et dans ce contexte, il veut leur donner quelques derniers conseils. Il voulait qu'ils fassent partie des rares qui y parviendraient plutôt que des nombreux qui échoueraient. Soyez donc sobres, éveillés dans la prière. Bon conseil. Et par-dessus tout, ayez une charité fervente, l'amour, excellent conseil, les uns envers les autres. Car la charité, l'amour, couvre une multitude de péchés. Attendez, une multitude de péchés. Attendez, l'amour, la grâce, le pardon. Tout est lié. Excellent conseil. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de, quoi? De la grâce multiforme de Dieu. Tout ce qu'il a mentionné dans les versets précédents fait partie de la grâce de Dieu. Et il nous appelle, et il nous dit, soyez-en de bons intendants. Or, pour revenir à ce que Paul a dit, que la grâce qui nous a été accordée par notre Créateur, Dieu, ne soit pas vaine. Le pardon, l'hospitalité, le service, l'amour, etc. Ce ne sont pas des expériences intérieures, ce sont des expressions extérieures de la grâce les uns envers les autres. La grâce reçue doit devenir une grâce dispensée. Dieu n'a jamais voulu que la grâce reste enfermée en nous. Il veut que nous la distribuions aux autres. C'est ainsi que nous devenons de bons intendants de la grâce, par nos paroles, par nos actions et en nous pardonnant mutuellement à maintes reprises lorsque nous commettons des fautes. Pierre nous rappelle que la grâce est multiple, qu'elle se manifeste de tant de façons différentes, sous de nombreuses formes, à travers de nombreuses occasions, envers de nombreuses personnes. Souvenez-vous du Christ, il a grandi dans la grâce, étant lui-même plein de grâce. La grâce se manifeste par de bonnes œuvres, des paroles édifiantes et le pardon. La grâce reçue doit devenir une grâce transmise. Acte 20. Mais la grâce, acte 20. La grâce ne se limite pas à notre relation avec les autres. Elle agit également à plusieurs égards sur notre vie personnelle. Acte 20. Rappelez-vous, Paul enseignait à partir de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? J'ai déjà établi, dans une certaine mesure, j'espère même dans une large mesure, que la loi n'a pas été remplacée par la grâce. Acte 20, verset 31. Nous connaissons bien ce récit, où Paul fait ses adieux. Veillez donc, et souvenez-vous que, pendant 3 ans, je n'ai cessé d'avertir chacun, nuit et jour, avec larmes. Et maintenant, frère, je vous confie à Dieu, ça me suffit, n'est-ce pas? Et à la parole de sa grâce. Bon, et alors? Eh, aviez-vous déjà remarqué cela auparavant, la parole de sa grâce? L'Ancien Testament, la loi, était une grâce accordée à l'humanité, ce qui ne fait que renforcer et revenir sur ce que j'ai dit plus tôt, à savoir qu'elle est capable de vous édifier. En d'autres termes, elle crée en vous une vie couronnée de succès qui plaît à Dieu et rend les autres heureux. La parole de grâce de Dieu peut nous édifier. C'est la clé d'une vie réussie, d'une vie qui trouve l'équilibre entre la réussite personnelle. Il n'y a rien de mal à cela, qui plaît à Dieu et qui rend les autres heureux. Si ces 3 critères ne sont pas remplis, vérifiez votre grâce. Si nous voulons construire une vie réussie, un mariage réussi, des familles épanouies, des relations épanouies, un service à Dieu, nous avons besoin de la parole de grâce de Dieu. Je vais vous dire, les cartes de fées des pères que j'ai reçues de mes filles, comme ces dernières années, sont bien différentes de celles que je recevais autrefois, non seulement parce qu'elles grandissent, mais aussi parce que j'ai changé en tant que père. Nous venons de fêter la fête des pères, et certaines des qualités qu'elles y ont mentionnées, si je devais les exprimer en termes simples, je dirais, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est grâce à cela que je suis le père que je suis. C'est grâce à cela que je suis le mari que je suis. Je suis un serviteur de Dieu grâce à la grâce de Dieu. Si vous voulez un mariage heureux, si vous voulez rendre votre conjoint heureux, c'est par la grâce de Dieu, grâce à l'influence qu'il exerce sur votre cœur de toutes les manières dont nous avons parlé. 2 Corinthiens 12. Continuons. C'est un passage puissant. Vous savez, je connais des frères qui traversent de graves épreuves de santé. Des milliards de personnes possèdent la Bible, mais rares sont celles dont la vie plaît à Dieu et rend les autres heureux. C'est la grâce qui fait la différence. La parole de grâce. 2 Corinthiens 12. Non seulement elle nous édifie, ou nous aide à construire des vies réussies qui plaisent à Dieu et rendent les autres heureux, mais 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force, attendez un instant, en réalité, il précise également ce qu'est la grâce. La grâce, c'est la force. Il ne change pas de sujet ici. Il dit, ma grâce te suffit, car ma grâce, qui est force, ma force, se perfectionne dans la faiblesse. Paul a prié pour que Dieu lui enlève son épreuve, et c'est une demande raisonnable, que nous devrions formuler nous aussi. Nous demandons même des onctions, que Dieu nous guérisse, mais savez-vous ce que nous pouvons demander d'autre? Et je dis aux frères et sœurs qui traversent des épreuves de santé physique, demandez la grâce de Dieu, car elle vous fortifiera pour traverser cette épreuve jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Car la grâce de Dieu suffit. Dieu veut que la grâce se manifeste. Il veut la guérison dans son Église, mais il veut que la grâce se manifeste, qu'elle soit évidente. Et il permet parfois des épreuves de santé, des épreuves financières, des épreuves professionnelles et des épreuves physiques. Et ces épreuves peuvent s'éterniser. Dieu promet qu'il n'y a aucune tentation ni épreuve dans nos vies que nous ne puissions supporter. Pas une seule. Mais il nous révèle aussi la raison de cela. C'est grâce à ses grâces. Ma grâce te suffit. Dieu peut permettre que certaines épreuves s'éternisent pour nous enseigner, et l'une des leçons qu'il nous enseigne au cours de ces épreuves de santé, physique ou financière, c'est que la grâce est la force qui nous aide à traverser chaque épreuve. Elle nous permet, elle nous aide à nous conduire d'une manière qui glorifie Dieu malgré l'épreuve. Et je l'ai vu maintes et maintes fois chez mes frères et sœurs dans la foi. Et que cette épreuve se soit terminée par une guérison miraculeuse, ou qu'elle ait abouti à la mort, j'ai vu des hommes et des femmes dans l'Église affronter leur épreuve avec une telle grâce. Ce n'est pas une phrase en l'air. La grâce se manifeste à travers des vies édifiantes, couronnées de succès, qui plaisent à Dieu et rendent les autres heureux. Elle nous fortifie dans les moments de faiblesse. Ce sont là des preuves personnelles qui s'ajoutent à la gratitude, le caractère, la générosité, les bonnes œuvres, les paroles édifiantes et le pardon. Ouah, la liste s'allonge, ce qui soulève une dernière question. Combien d'entre vous aimeraient savoir comment nous pouvons grandir dans la grâce, si tant est que ce soit possible? Luc, chapitre 2. Je n'aurais pas posé la question si je ne pensais pas que c'était possible. Luc, chapitre 2. Je veux la grâce, et j'en veux davantage. Elle a transformé ma vie et je suis persuadé qu'elle continuera à la transformer. Luc, chapitre 2, verset 52, et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en faveur, c'est Kairos, auprès de Dieu et des hommes. Or, comment quelqu'un qui est plein de grâce peut-il grandir en grâce? Cela ne signifie pas que le Christ ait jamais manqué de grâce. Cela ne peut signifier qu'une chose, qu'il manifestait de plus en plus la plénitude de la grâce qu'il possédait. À mesure que les occasions se multipliaient ou se présentaient, il manifestait la grâce de toutes les manières dont nous avons parlé. C'est ainsi que l'on grandit en grâce. Lorsque l'occasion se présente, soyez prêts à la mettre en évidence. Le Christ a été édifié, il a été fortifié, il a été réconforté par la grâce, et il l'a manifesté. Le Christ avait-il une attitude de gratitude? Oui. Avait-il un caractère pieux? Parfaitement. Était-il généreux? Oui. Accomplissait-il de bonnes œuvres? Plus que n'importe lequel d'entre nous. Des paroles édifiantes et le pardon? Absolument. Il était ici pour manifester la grâce tout en accomplissant la loi. 2 Pierre 3. Et nous? 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, puisque vous savez ces choses à l'avance, prenez garde de ne pas tomber de votre fermeté, en vous laissant entraîner par l'égarement des méchants. Et voici le verset 18, « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, plus vous aurez de connaissance de Jésus-Christ, plus vous comprendrez la grâce. Et plus vous comprendrez la grâce, plus vous aurez de possibilités ou d'occasions de manifester cette grâce. » Encore une fois, Pierre ne dit pas exactement comment grandir dans la grâce. Jean a expliqué une partie, mais laissons Jacques le dire clairement. J'aime bien me référer à Jacques. Passons à Jacques. Jacques a le don de dire les choses sans détour. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 5. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'Esprit qui habite en nous convoite l'envie? Oh oh, l'Esprit de Dieu. Mais quel est le rôle de l'Esprit de Dieu là-dedans? Eh bien, c'est que l'Esprit de Dieu donne davantage de grâce. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez grandir dans la grâce, soyez humbles. Abaissez-vous. C'est exactement ce que nous devrions rechercher. Plus de grâce, mes frères, car tout en découle. Nous avons besoin d'une plus grande influence de Dieu dans nos cœurs afin de pouvoir la refléter davantage dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, accorde davantage de grâce à ceux qui sont humbles. Pourquoi je jeûnerai-je? En partie pour m'humilier. Pourquoi? Pour obtenir plus de grâce. Hébreux, chapitre 4. Nous sommes dans la dernière ligne droite ici. Hébreux, chapitre 4. Dieu ne distribue pas la grâce sans discernement. Nous devons la demander, et le faire avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et ne leur accorde pas sa grâce. C'est fatal. À la lumière de tout ce que nous avons appris sur la façon dont la grâce peut transformer nos vies, et compte tenu de l'exhortation de Pierre à grandir en elle, vous trouverez ce point suivant très percutant. Ce que nous allons lire est saisissant. Est-ce que nous humilier est la seule chose que nous ayons à faire? Verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement notre profession de foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. On ne l'appelle pas le trône de l'amour, ni le trône de la joie, ni le trône de la paix, ni le trône de la patience, ni le trône de la douceur, de la bonté, de la foi, de l'humilité et de la tempérance. On l'appelle le trône de la grâce. C'est au trône de Dieu que l'on trouve la grâce. Et on y trouve la grâce pour être secouru au moment du besoin. Si vous avez besoin d'aide dans la vie, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de son influence sur votre cœur. Et pour l'obtenir, vous devez vous présenter devant le trône de la grâce, et Dieu, par son esprit de grâce, vous en donnera davantage. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cela sans vraiment comprendre ce qui était dit. Si nous demandons la grâce à Dieu, il pourrait nous demander, « Pourquoi en as-tu besoin ?» ou « À quoi te servira-t-elle » « Père, je veux, j'ai besoin de plus de grâce pour développer davantage ton caractère. Je veux prouver que ta grâce existe en étant abondamment généreux. Je veux davantage de ta grâce parce que je veux être bienveillant et indulgent. Je veux davantage de ta grâce parce que je veux trouver la force pour traverser cette épreuve. » Un dernier verset. Car lorsque nous nous présenterons enfin devant le trône de la grâce, nous ne nous en rendrons peut-être pas compte, mais nous demanderons à Dieu d'accomplir ce qui est sans doute la plus grande raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce et la désirons. Galates, chapitre 1. Frères, si Dieu touche nos cœurs, nous demandons, nous l'avons reçu pour ce que je crois être la plus grande raison qu'un être humain puisse avoir. Galates, chapitre 1, verset 15. Mais lorsque Dieu, qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par ses grâces, a jugé bon de révéler son Fils en moi, non pas simplement de révéler son Fils à moi, ce n'est pas ce qui est dit, mais de révéler son Fils en moi. Paul n'a pas dit que Dieu l'avait appelé par grâce pour lui révéler le Christ. Dieu lui a donné la grâce de révéler le Christ à travers lui. C'est là la preuve ultime de la grâce, que nous reflétions de plus en plus Jésus-Christ dans nos vies. Frères, les signataires de la Déclaration d'indépendance considéraient certaines vérités comme évidentes en elles-mêmes, des vérités qui, selon eux, ne nécessitaient aucune preuve. Le monde suppose que la grâce ne signifie rien de plus que la miséricorde et le pardon. Dire que leur compréhension de la grâce est incomplète est un euphémisme. Il leur manque tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La grâce est l'influence divine qui agit sur le cœur et qui se reflète dans notre vie, notamment à travers la gratitude, un caractère pieux, une générosité débordante, de bonnes œuvres, des paroles édifiantes et le pardon envers les autres. Elle nous aide à mener une vie épanouie qui plaît à Dieu et qui réjouit les autres. Elle nous fortifie et nous réconforte dans les moments d'épreuve, et, en fin de compte, la grâce nous aide à révéler Jésus-Christ dans nos vies, l'exemple le plus grand et le plus parfait de la grâce incarnée. Frères, nous devons être de bons intendants de la grâce afin qu'elle n'ait pas été accordée en vain. Tout cela explique pourquoi Dieu a mis l'accent sur la grâce, et c'est pour ces raisons que la majorité des livres du Nouveau Testament s'achèvent par elle, y compris, et je vous laisse cela comme devoir, le dernier livre et le dernier verset de toute la Bible. Je me demande ce qu'il dit.